Aujourd'hui, en cette fête nationale qui incite à la réflexion, place à un échange avec deux artistes engagés qui ont travaillé durant le dernier mois et en période de déconfinement à une meilleure reconnaissance politique de la situation économique et de la contribution du secteur art visuel à la culture québécoise, tant au plan national qu'international. 400 millions sur 2 ans pour relancer la culture. C'est ce qui est prévu dans le plan de relance du milieu culturel qui a été annoncé le 1er juin dernier par le gouvernement Legault. De ce montant, 6,5 millions ont été alloués pour les artistes et écrivains afin de permettre la poursuite, de poursuivre sur la voie de la création sans plus de précision. Ce qui a fait bondir la communauté art visuel et amené Laurence Dubuc à s'entourer d'une équipe pour rédiger une lettre adressée à la ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy. Alors, nos deux invités nous informent d'abord des circonstances entourant la rédaction de cette lettre et de la réponse de la communauté à leur initiative. Vous excuserez la qualité sonore de cet entretien enregistré sur Internet et du fait qu'il n'a été possible que de diffuser qu'un minimum d'intervention de la part de l'animatrice.
Je crois qu'au moment où on l'a envoyé, on était à plus de 450 signataires, qui sont principalement donc des artistes et des travailleurs du milieu de la culture et représentants d'institutions au Québec en art visuel. Encore une fois, je pense que, Laurence, si tu veux reprendre cette question-là, peut-être un peu dire comment l'initiative a commencé, puis aussi mentionner que, même si aujourd'hui on te parle, Chantal, bon, moi, je suis artiste en art visuel, Laurence est autrice et chercheure en culture.
Comment a débuté cette initiative d'importance? Oui, merci.
Oui, bien, en fait, suite à l'allocution ministérielle où Mme Roy a présenté le plan de relance, donc le 1er juin dernier, s'est passé, c'est que, donc moi j'ai réagi dans le fond sur les réseaux sociaux par rapport à cette annonce-là en soulignant dans le fond qu'il y avait vraiment un manque de transparence par rapport à quel fonds allait être destiné aux artistes en art visuel. Et puis, j'étais quand même assez choquée aussi dans le cadre de l'allocution que la ministre ne fasse pas référence, ne nomme pas en fait le secteur des arts visuels, alors que au courant de son discours, elle, par exemple, s'adresse directement aux représentants des associations professionnelles dans les arts vivants. Elle mentionne le secteur de la musique, elle mentionne l'audiovisuel, mais il n'y a jamais de mention des arts visuels. Et donc, j'ai reçu beaucoup de messages d'artistes, dans le fond, qui rebondissaient eux aussi sur l'allocution. Et on m'a demandé si je voulais, dans le fond, prendre en charge d'écrire une lettre à la ministre. Et puis ensuite de ça, donc j'ai contacté un certain nombre de personnes, dont Guillaume, que je connaissais pas beaucoup à ce moment-là, mais qui m'apparaissait quelqu'un qui était assez engagé sur le plan politique. Donc, j'étais très intéressée à avoir son avis sur la question. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Guillaume, je dirais, a été le plus grand collaborateur, mais comme il vient de le mentionner, il y a énormément de personnes qui ont contribué à la lettre puis à l'initiative de façon générale.
Tout à fait. Oui, il y a aussi des co-rédacteurs indiqués. Il y a au moins deux co-rédacteurs.
Oui, la version finale, dans le fond, on en mentionne trois, donc Benjamin J. Allard, Nicolas Grenier et puis Muriel Jaouiche.
Je crois qu'on peut aussi dire que c'est un début quelque part parce que c'est une initiative qui est assez rare. Faut le reconnaître qu'en art visuel, c'est quelque chose qui est assez rare, mais en même temps, moi je dirais aussi qu'au-delà que c'est enrichissant puis qu'on est satisfait de ce qui arrive, puis on le voit qu'il y avait une attente de la part des artistes québécois d'être représentés puis d'être entendus sur, en fait, non seulement sur la question de la relance économique, mais aussi sur leur place dans la société. Je pense qu'il y a un peu tout ça qui est attendu à travers la lettre. Ça reste quand même aussi que, tu sais, on a mis de l'effort individuel et collectif pour que ça existe. Mais il y a aussi une attente que les organismes qui représentent les artistes en art visuel reprennent le flambeau de cette initiative-là, puis qu'ils poursuivent le travail, en fait, à la défense des artistes en art visuel. Et j'ajouterai au travers également du milieu de la culture et des arts visuels.
Il faut comprendre qu'au Québec, il y a un contexte législatif qui encadre, dans le fond, les relations de travail entre les artistes puis leurs employeurs. Et puis, cet organisme-là s'occupe aussi de faire la représentation des intérêts des artistes au sens plus large, et c'est le regroupement des artistes en art visuel du Québec.
Bien sûr.
Donc, exactement. Dans le cadre de cette initiative-là, on a d'ailleurs pu compter sur leur précieux support. Là, c'était vraiment important pour nous d'être capable de rejoindre des artistes de tous les âges et de toutes les régions. Et puis, dans le fond, à nous seuls, les co-rédacteurs de la lettre, nos réseaux étaient quand même assez homogènes là, sur le plan, par exemple, de l'âge et puis de la région. Donc, ça nous a vraiment donné un grand coup de main. Mais c'est certain que, pour moi, il m'apparaît vraiment clair que le RAV doit se saisir de cette initiative-là et la porter. Mais c'est pas la seule institution à laquelle les artistes et les travailleurs culturels s'identifient et qui sont également des organismes qui sont très actifs sur sur les différentes questions qui ont trait aux intérêts des artistes, que ça soit les collectifs d'artistes ou des artistes individuels.
Oui.
Et je pense notamment au RCAAQ, le Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, qui est, comme vous le savez, en processus de mutualisation avec le RAIC, le Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec, puis le CECAM, le Conseil québécois des arts médiatiques.
Oui, tout à fait. Alors, oui, le RAV n'est pas le seul qui pourrait aider à cette cause, tout à fait.
Exact.
Et, vous avez, oui, c'est ça. Et le RCAAQ, est-ce que c'est vous appuyez présentement?
Oui. Non, le RCAAQ a choisi de ne pas diffuser la lettre en tant qu'institution pour des raisons qui étaient assez claires là, lorsqu'on s'est entretenu. D'ailleurs, ils m'ont été de très bons conseils, mais pour des raisons qui ont trait, dans le fond, à leur réalité, à eux, le fait qu'ils ont obtenu, dans le fond, l'accord du MCC puis du gouvernement pour ouvrir leurs portes, etc. Donc, eux ne se sentaient pas à l'aise d'appuyer la lettre. Par contre, on a eu plusieurs de leurs membres qui l'ont signée. Donc, on a plusieurs centres d'artistes à la grandeur du Québec, des représentants des centres d'artistes qui ont signé la lettre.
Évidemment, moi, je ne crois pas qu'il y ait une déception que certains de ces organismes-là n'aient pas soutenu la lettre, parce qu'après, encore une fois, c'est une initiative plutôt folk qui est soutenue par les artistes à la base et les représentants et les travailleurs culturels, encore une fois. Après ça, moi, j'attends aussi de voir des initiatives de la sorte qui seront prises par ces organismes-là aussi à la défense du milieu des arts visuels et des artistes pour leur rémunération juste et efficace dans les prochaines années.
Tout à fait.
Ne sera que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui tombe redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber empêchera de rêver. Les cœurs disloqués, les n'est pas objet qui pense qu'à briller, mais plutôt tout geste de vérité. Ben nous donnerons nos armes en offrande à Notre-Dame pour ces quelques pécheurs sans âme, en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Les yeux, le cœur aveuglé par l'alcool de sang troublé, par le frère de l'huître scellé, bien droit nous continuerons à marcher. Une fois de part de rassemblés, nous partirons le poing levé. Jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
On n'a pas du tout parlé, par exemple, de la danse. Par exemple, on vous a donné il y a des parents pauvres. Comment s'assurer qu'on considère de façon maximale la situation des artistes en art visuel comparativement à d'autres parents pauvres là, sur la scène?
Ben moi, je peux y aller déjà en soulignant que pour avoir des contacts privilégiés à titre de chercheur avec notamment des grands bailleurs de fonds du milieu, c'est certain que il y a vraiment une fragmentation des identités occupationnelles dans ce secteur-là, au sens où, par exemple, les artistes en art actuel ne ressentent pas de sentiment d'appartenance à leur association professionnelle. Et cette espèce de manque de sentiment d'appartenance ou de sentiment d'appartenance à des organismes qui, dont le mandat n'est pas de faire la promotion des intérêts des artistes sur le plan individuel. C'est certain que ça contribue à faire en sorte que on peut pas dire que dans le secteur des arts visuels, on est capable de parler d'une seule voix très forte pour faire entendre des revendications précises. Et ça, c'est définitivement un grand problème dans le secteur des arts visuels. Et c'est pas un problème qui est équivalent dans le secteur de la danse, parce que on pense par exemple à Fabienne Cabado au Regroupement québécois de la danse, qui fait vraiment un travail très important. On a aussi tous les gens du CRTD, le Centre de ressources pour les transitions des danseurs, qui font un travail exceptionnel aussi. Et ces personnes-là sont connues des bailleurs de fonds. Ils se présentent, dans le fond, à toutes sortes d'événements politiques pour faire de la représentation. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment un des points majeurs sur lesquels il faut travailler dans le secteur des arts visuels.
Effectivement, le travail artistique, parfois, c'est aussi un travail qui est plutôt individualisé. On réalise des expositions principalement en tant qu'artiste individuel, mais on est évidemment amené avec des amitiés à comprendre les pratiques des autres, mais aussi à travailler avec des acteurs importants. Donc, tu sais, les arts visuels, ça reste un écosystème dans lequel, oui, l'artiste existe, mais il y a des gens qui travaillent très fort pour que les lieux de diffusion et de production subsistent. Il y a des médiateurs, des médiatrices, évidemment, qui travaillent très fort également pour communiquer et créer des ponts entre les artistes et les publics. Donc, c'est sûr que, comme disait Laurence, il manque cet organisme-là ou cette vision qui permet de mutualiser toute cette communauté-là autour d'enjeux précis et politiques. Mais il y a une attente. Je crois que tous les artistes en art visuel en ce moment, puis la lettre en témoignait certainement, il y a cette espèce de désir d'être plus présent sur la scène politique au Québec, puis qu'on reconnaisse également le travail qu'on fait à travers un langage qui est plastique, qui est visuel et qui est médiatique, finalement. Ça fait quand même partie de l'essence de la lettre qui a été co-écrite, puis de plusieurs signataires. En fait, il y a cette considération-là de dire les arts visuels au Québec, évidemment, les finance, mais toujours à partir de dépôts de projets. Les arts visuels, c'est un médium quand même qui est très dispendieux à produire. On parle de lieux de travail supplémentaires, donc c'est souvent un double loyer pour les artistes, des matériaux, de l'entreposage, du transport. Donc, c'est une pratique qui est dispendieuse et qui est souvent...
L'atelier d'artistes payé, c'est ça?
L'atelier d'artistes à payer, donc c'est une pratique qui est dispendieuse. Et le fait de toujours appliquer sur des programmes de subvention au projet en sachant pas d'avance si notre projet sur lequel on investit puis sur lequel on met de l'argent pourra éventuellement être récupéré. Donc, il y a souvent un rapport de déficit, en fait, à la production artistique en art visuel. Je pense qu'il y a quand même vraiment une écœurantite. Il y a vraiment un désir aussi de transiter à d'autres formes de soutien aux artistes. Puis le fait que dans le plan de relance, il n'y avait pas d'aide d'urgence aux artistes, mais qu'on l'appliquait, par exemple, évidemment, on verra dans les mois à venir comment ça sera reçu de toute manière par les musiciens ou les artistes de l'UDA, de l'Union des artistes. Mais effectivement, pour les écrivains et les artistes en art visuel, il n'y avait absolument pas de mention que ces fonds-là existeraient. Donc, on leur dit encore une fois... on va vous soutenir si vous avez des projets et si sont sélectionnés par les jurys de pairs, et vous le saurez dans 5 mois, 6 mois, 8 mois, parce que ça peut prendre encore beaucoup de temps, en fait, d'avoir des réponses.
Exactement. C'est comme vraiment complètement laisser les artistes dans un état d'incertitude puis de précarité, comme on le mentionne dans la lettre. Et puis, je pense que heureusement, pour bien des artistes, le fait que la prestation canadienne d'urgence ait été étendue, ça procure, dans le fond, un filet de sécurité dont ils et elles ont grandement besoin.
Il y a peu de considération de la réalité du milieu visuel, les frais encourus.
Puis aussi, rien ne nous prouve, parce que ça, comme on en a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de mention nécessairement des arts visuels lors de l'allocution du début juin. Il reste quand même qu'on se demande qui a été consulté. On se doute que le Conseil des arts et lettres du Québec a été consulté, qui représente évidemment tout type de médium pour les artistes au Québec et pas que les arts visuels, mais vraiment soit des organismes, soit des représentants du RAV, du RSAQ. On n'a pas eu de réponse qui disait qu'il aurait été consulté dans la planification de ces mesures-là, en fait. Il n'y a pas d'informations, puis sans rentrer dans les détails, il y a une réponse qui est rentrée de la lettre qui a été envoyée aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Laurence. Puis encore une fois, il n'y a pas de mention réellement ni de qui a été consulté, mais surtout pas qui pourrait ou voudrait être appelé à être consulté dans le futur. C'est un peu de juste dire, bon, ben, c'est ce qui a été... Voici un rappel de ce qui a été proposé, tout ça.
Oui, exactement. Il n'y a pas d'engagement qui a été manifesté dans cette réponse-là à l'effet de quoi le gouvernement s'assoirait avec... une ou l'autre des institutions qui représentent les artistes puis les travailleurs culturels. Donc, c'est certain que c'est assez décevant parce que ça donne pas l'impression qu'un dialogue est engagé de leur côté.
C'est une chose qu'on n'a pas couvert dans la conversation d'aujourd'hui qui est l'offre en culture pour le passage au numérique, parce que c'est quand même une enveloppe assez importante. On parle quand même de 14 millions qui est adressée, donc qui touche tous les secteurs d'activité en la culture pour le numérique, alors qu'on parlait de 6,5 millions pour les arts visuels et les artistes, les écrivains, pardon, écrivaines. Puis ça reste une considération, encore une fois, peut-être que ça peut en témoigner aujourd'hui, on s'entretient à travers une plateforme numérique qui est un peu déficiente, on essaie de se comprendre difficilement. Puis on peut saluer, effectivement, c'est très bien de réfléchir au numérique pour le futur de la culture des arts visuels. Mais ça reste que les arts visuels, c'est aussi une pratique de la présence, une pratique de l'objet qui est visuel. Effectivement, peut exister sur des plateformes numériques, mais je crois pas qu'on peut traduire toutes les expériences de l'art visuel dans les plateformes numériques. Je crois pas que tous les artistes non plus ont le désir ou la capacité de transférer toutes leurs activités. Ça serait un peu ne pas prendre en considération la nature de ce que l'art est réellement. Donc, c'est un peu, je sais pas, je trouve que c'est un peu une façon de formater comment les arts devraient s'exprimer plutôt que oui. de considérer ce que les artistes ont besoin, en fait, comme support.
Encore une fois, très peu de consultations, tout à fait, mais il y a de belles avancées, donc, depuis quelques temps, que ce soit à l'équipe pour d'abord s'adresser à l'Ombudsman, le manque de couverture média, des arts visuels, celle que vous venez de rédiger. Vous m'avez parlé aussi de deux démarches d'importance à faire, hein, unifier meilleur visuel pour le renforcer et puis vraiment amener cet accès davantage et surtout surtout qu'on consulte le milieu politique, consulte le milieu art visuel. Alors tout ça, ce sont des problèmes, un constat qui a été bien identifié, je vous félicite. Vous amenez d'ailleurs des pistes de solutions dans votre lettre, qui sont peut-être pas écrites de la lettre dans une seconde lettre à venir. Il y a des pistes de solutions. Hein?
Oui, absolument.
Vous amenez dans une deuxième partie de votre lettre à venir. Mm-hmm. Des pistes à court terme, des pistes à moyen et à plus long terme. Oui, mais quelques-unes.
Si je peux mentionner quelque chose sur les pistes de solutions, effectivement, dans l'écriture de la lettre, ça nous apparaissait important de dire on veut être entendu et on veut être consulté dans l'élaboration de pistes de solutions pour mieux soutenir les artistes en art visuel. Il y a eu des propositions qui sont faites qui sont absolument pas pures et qui sont appelées à bouger et à évoluer parce que on veut relayer la voix des artistes et des travailleurs en art visuel. Donc au final, on souhaite pas prétendre avoir les solutions idéales et pures en ce moment, mais définitivement il y avait des solutions là-dedans qu'on trouvait importantes. Puis je crois qu'à la base, c'est juste dire appelons les artistes et les travailleurs de la culture à être consultés dans ce qui est nécessaire comme soutien à leur travail. C'est la base.
C'est tellement important.
Oui, puis je pense qu'en fait, ça a été un exercice qui était extrêmement intéressant parce que moi, c'est vraiment à travers ces pistes de suggestions-là que j'ai vraiment constaté le plus grand niveau d'engagement puis d'implication. Dans le fond, de la communauté artistique, on a eu énormément d'artistes puis de travailleurs culturels qui nous ont contactés pour participer, dans le fond, aux réflexions entourant les pistes de suggestions. Donc, comme Guillaume l'a dit, c'est vraiment des pistes de suggestions, c'est des idées qui sont plus concrètes et qui mettent vraiment en évidence certains enjeux de précarité qui sont peut-être plus criants pour les artistes en art visuel, mais c'est évidemment pas une liste qui est exhaustive, là. Donc, on a fait parvenir 7 pistes de recommandations. Donc, il y en a une qui trait, dans le fond, à la révision de la loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art, de la littérature, puis sur leur contrat avec les diffuseurs, de façon à ce qu'on puisse vraiment favoriser une standardisation de normes qui sont décentes du travail pour les artistes. On a aussi une mesure qui a davantage trait à la lutte contre la gentrification, là, c'est-à-dire où est-ce qu'on sait qu'il y a vraiment des partenariats plus durables qui impliquent, dans le fond, les municipalités pour qu'on puisse être capable d'acquérir puis de financer des bâtiments qui seraient réservés vraiment pour les artistes et puis qui n'auraient pas, dans le fond, à se préoccuper d'une hausse drastique de leur loyer dans les futures années. Il y a aussi il y avait aussi une recommandation qui avait davantage trait à la stimulation de la demande privée pour les arts visuels. Donc, ça fait vraiment un grand tour de la question. Puis, je pense qu'on espère vraiment que ça va susciter autant d'enthousiasme chez le gouvernement que ça en a suscité auprès de la communauté.
Alors, écoutez, à mon avis, il y a beaucoup d'enthousiasme entourant votre lettre et je pense qu'on peut encore la signer encore pour un bon moment, pour un temps.
Oui, la lettre, moi, je l'ai laissée en circulation. Si les gens veulent continuer à signer, on ne sait pas ce qui pourrait advenir de celle-ci. Mais oui, elle est toujours, la liste des signataires est toujours accessible pour quiconque voudrait ajouter son nom. Elle a été transmise, donc la lettre, le contenu de la lettre ne changera plus. Donc, si les gens veulent ajouter leur nom, ils endossent, dans le fond, la version qu'on a fait parvenir le 12 juin 2020.
Le 12 juin, est-ce qu'il y a eu un retour depuis, des nouvelles depuis cet envoi?
On a reçu effectivement la réponse aujourd'hui, quelques minutes avant cet entretien finalement. Donc, une réponse somme toute, je pense que je pourrais utiliser le mot et je parlerai en mon nom uniquement, mais une réponse un peu décevante pour ma part, où selon moi, le gouvernement nous appelle à contacter les personnes en charge des programmes qui nous concernent au CALQ pour avoir plus de détails sur l'éligibilité des artistes en art visuel au programme. Donc, je dirais que la seule information, dans le fond, qu'on nous apprend dans cette réponse-là, c'est le fait que parmi les fonds qui sont spécifiquement dédiés au secteur des arts visuels et des écrivains, donc c'est les deux secteurs, ensemble, on parle de 4 millions de dollars.
Alors, oui, une nouvelle un peu décevante, mais écoutez, ça n'est pas terminé. Il y a assurément d'autres démarches que vous envisagez de faire, j'en suis persuadée. Il y avait déjà des solutions à transmettre aussi, hein?
Je crois qu'il y a un souhait que cette démarche-là, de toute façon, il y a eu une première mobilisation qui témoigne que les artistes ont besoin d'avoir une représentation puis qu'ils ont besoin d'être entendus sur la scène politique et au ministère de la Culture. Si ce n'est pas moi ou Laurence qui reprenons le flambeau, il y aura assurément une suite dans le dossier. Voilà, c'est ce que je dirais.
Alors, Laurence Dubuc... Alors, et Guillaume Adjudor, pour vous remercier infiniment d'avoir participé à cet entretien. Je suis ravie que nous ayons surmonté tous les obstacles technologiques pour faire venir cet entretien important.
Ça fait grand plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Bye.
Merci beaucoup.